des podcasts de l'IFEP, l'Institut de l'expérience patient, animé par Jessica Falour.
Nouvelle série de podcasts à l'occasion de la journée annuelle de l'expérience patient. Le docteur Cédric Villeminot est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, vous avez un cabinet à Annecy et vous êtes expert en télémédecine. Vous faites donc de la téléconsultation depuis 4 ans maintenant. Vous allez nous en parler. Vous venez d'animer une conférence à l'occasion de cette journée annuelle de l'expérience patient. Racontez-nous qu'est-ce que c'était, comment ça s'est passé.
Alors l'intitulé de mon intervention, c'était la téléconsultation. Une expérience singulière. Je suis intervenu en compagnie d'un patient à distance ainsi qu'une infirmière et un fondateur d'une start-up qui est censée révolutionner un petit peu les centres de santé des temps modernes, qui s'appelle DispenCare, qui fait un lien majeur entre le lien patient, l'expérience patient, puisque les DispenCare, dispensaires. Ma maman m'a dit un jour mais tu es en train de vouloir révolutionner les dispensaires de quartier, et je lui ai dit mais ce n'est pas une insulte, c'est gratifiant.
Ouais.
Ces dispensaires des temps modernes augmentés, enrichis par de l'e-santé, enrichis par de l'intelligence artificielle, enrichis par de la télémédecine, enrichis par les objets connectés, etc. C'est ce qui aujourd'hui doit être le fondement même de notre exercice. D'accord.
Et en quoi c'est une expérience singulière, la télémédecine?
Alors ça, c'est une très bonne question.
C'est mon métier, je vous remercie.
On m'a intitulé cette table ronde de cette manière-là. Singulière, cette singularité comme probablement une ré-expérience, une réévaluation du colloque singulier entre le patient et le médecin. C'est-à-dire qu'on ne réinvente rien, on l'adapte à notre temps aujourd'hui. Comment répondre un besoin ressenti par le patient dans la situation actuelle de la santé, dans la problématique de la démographie médicale, dans la problématique des déserts numériques aussi. Comment pouvoir se réapproprier ce lien humain avec le patient à partir du moment où on est en apparence moins de médecins pour répondre à leurs besoins. Moi, je prétends qu'on n'est pas forcément pas assez. Alors, je ne me fais pas des amis dans ma corporation quand je dis ça. C'est vrai que je suis impertinent, j'ai un discours disruptif, je l'accepte et je le revendique. Pour moi, on n'a jamais été autant de médecins en France. C'est juste une problématique de répartition potentielle, mais aussi de réintroduction de la médecine générale, je parle de la médecine générale, attention, hein, au niveau des soins primaires, puisque aujourd'hui vous avez bon nombre de médecins, presque la moitié des médecins généralistes qui font d'autres pratiques, d'autres exercices.
D'accord.
Que dans la médecine générale dite conventionnelle.
Oui, parce que en fait, nous, par exemple, en tant que patients, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont où les médecins? On met 6 mois pour trouver un médecin, et encore, quand ils acceptent de prendre de nouveaux patients, mais ils sont où alors les médecins? Si selon vous,
vous êtes en nombre.
Non, mais c'est un sujet qui est hyper intéressant. Vous venez d'ouvrir une porte qui m'intéresse.
J'adore.
Donc, vous voyez, on va pouvoir élargir le débat. Non, c'est vrai, c'est une vraie question. Comment on fait pour trouver aujourd'hui un médecin généraliste qui veut bien de nous?
Alors, c'est tout simple. Un, on va essayer déjà de remettre de l'ordre via notre conseil de l'ordre qui ne fait pas son boulot. Pourquoi je dis ça? Vous avez sur mon secteur où j'exerce 148 médecins inscrits au conseil de l'ordre en tant que médecin généraliste. À pratiquer la médecine générale, nous sommes que 72. Je ne parle pas des médecins retraités. Je parle des médecins installés. 72 sur 148. Que font les autres?
C'était ma question, oui.
De la mésothérapie,
ouais,
de la fasciathérapie, de la phytothérapie, de l'homéopathie, de l'ostéopathie, des injections de Botox,
ouais,
des injections d'acide hyaluronique. Tiens, c'était un sujet à la mode il y a quelque temps encore dans l'Assemblée nationale, où on protégeait bizarrement qui? Les médecins face aux influenceuses, etc., etc. Parce qu'il n'y a que les médecins qui savent injecter de l'acide hyaluronique, qui n'est pas une pratique reconnue par l'Académie de médecine. C'est quand même dingue. Et bizarrement, le Conseil de l'Ordre va protéger ces médecins-là. Par contre, à l'autre bout, on casse la télémédecine, on casse les effecteurs de télémédecine, on casse les médecins, on les limite à un taux maximum de 20% de leur volume d'activité, alors qu'eux font de la médecine générale.
Donc si je comprends bien, si on n'a pas assez de médecins et si c'est compliqué pour les patients d'avoir un médecin traitant, c'est parce qu'ils ont, pas tous, hein, mais en tout cas pas mal d'entre eux, d'autres activités. Et donc ce temps est pris pour autre chose que pour de la médecine générale.
Il faut remettre les médecins qui font des thérapies parallèles, qui ne font pas de la médecine parallèle. Attention, c'est des thérapies parallèles, il faut les remettre dans le droit chemin. C'est une des raisons.
Est-ce que ça, c'est interdit ?
Ce n'est pas interdit.
C'est pas interdit, mais...
Ce n'est pas interdit. Pourquoi ils le font ? C'est pour aller chercher un petit peu plus d'argent, c'est tout simple, parce que les tarifs conventionnés ne sont pas suffisants, etc. etc. On va pas, moi, je ne suis pas pour aller dehors, pour aller réclamer 50 euros, pour pouvoir aller continuer à faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire soigner des nez qui coulent et faire des cystites. Stop. Donc ça, c'est la première raison, c'est de remettre les médecins dans le droit chemin. Et ça, c'est un discours que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ailleurs. Deuxième chose, à un moment donné, il va falloir aussi adapter l'offre, la pertinence de l'offre médicale à la pertinence de la demande médicale. Je m'explique. La pertinence de l'offre, c'est pourquoi aujourd'hui un médecin qui se dit débordé, qui n'arrive plus à prendre ses patients dont il devrait prendre la charge. Je vais vous rappeler, à mon sens, les défis de la médecine générale qui doit prendre 5 variétés de patients, entre guillemets. Je vais vous les rappeler après. Donc, remettre de la pertinence dans l'offre, c'est-à-dire ne plus accepter d'aller prendre des nez qui coulent dans la salle d'attente. La valeur ajoutée est nulle. Le prix pour la CNAM est énorme. Et nous, sincèrement, pour élever mon âme, en termes d'expertise médicale, c'est faible. Hein. Ouais. La plus-value apportée est très faible.
Mais du coup, le patient devient quoi ? Le patient qui se déplace pour voir un médecin parce qu'il a le nez qui coule, etc. Qu'est-ce qu'il fait ?
Je vais vous donner les solutions que je pense être les bonnes après. Bien sûr, je parlais de pertinence de l'offre de soins. De l'autre côté, il faut mettre en exergue la pertinence de la demande. Et ça, la pertinence de la demande, c'est le ressenti de besoin de soins par le patient. Ça, c'est encore un autre sujet majeur. Il va falloir rééduquer la population à qu'est-ce qu'est un soin. D'accord ? Je pense que nos grands-mères traitaient nos mamans avec du miel, avec des tisanes, etc., pour un nez qui coule. Aujourd'hui, on fonce chez le médecin. Ça n'est pas normal. Ouais. Ça n'est pas normal. On pouvait éventuellement imaginer cette possibilité quand on avait pléthore de médecins. Bizarre, hein, avec ce que je viens de vous dire avant. Mais quand on avait pléthore de médecins, on ne peut plus l'imaginer aujourd'hui quand on court après les médecins et qu'en plus de ça, on n'a plus de financement pour faire ces petits soins de bobologie. D'accord ? Donc, ça c'est une chose. On va à l'autre bout. Qu'est-ce qu'un soin aujourd'hui ? Qu'est-ce que la médecine générale ? Quels sont les défis et les enjeux de la médecine générale aujourd'hui ?
Vous me parliez des 5 points.
Exactement.
Voilà.
Donc, ces défis. Le premier, c'est la prise en charge des soins non programmés. D'accord ? C'est un sujet majeur à l'heure actuelle. Qui va pouvoir prendre les fameux soins non programmés ? Qu'est-ce qu'un soin non programmé ? En fait, c'est un ressenti d'une otite de la nuit d'une maman qui se réveille avec son gamin et qui a mal à l'oreille. Bon, c'est un soin non programmé. OK. Son médecin ne peut pas la prendre, etc. Qui va prendre cet enfant ? Deuxième enjeu majeur et défi de la médecine générale, prendre et décharger les urgences. C'est-à-dire reprendre ce qui doit être pris par la médecine de ville. Il est impensable aujourd'hui qu'une petite plaie, une suture à réaliser, aille jusqu'aux urgences.
Même une demande d'ordonnance, par exemple.
Demande d'ordonnance, ça c'était même presque dans le soin non programmé, d'accord ? L'ordonnance de pilule.
Ça
ne doit plus aller aux urgences, ça ne doit pas être pris en charge autrement que par le médecin généraliste. Trois, c'est reprendre les défis d'aujourd'hui en médecine de ville, c'est-à-dire le grand âge, les pathologies chroniques, le handicap et la perte d'autonomie. C'est à nous, médecins généralistes, de prendre ces pathologies-là. Or, la médecine générale s'est désengagée depuis quelques années sur ces sujets-là. Les gens ne savent plus où aller frapper à la porte, donc ils vont aux urgences. Le quatrième point qui est un drame annoncé, c'est les suites de chirurgie ambulatoire. La médecine de ville n'est pas prête. Donc il y a des sociétés privées qui organisent, bravo à elles, mais les médecins généralistes vont venir pleurnicher en disant qu'ils ont été mis de côté. Eh bien non, c'est eux qui ont organisé le fait qu'ils ont été mis de côté, puisqu'ils n'ont rien proposé. Je suis tranchant, mais c'est la réalité de la situation d'aujourd'hui. Et le cinquième point, on a un ministre de la Santé qui est ministre de la Santé et de la Prévention pour la première fois. Eh bien, c'est bien entendu le volet de la prévention qui doit être pris en charge dans la médecine générale. Donc, un, les soins non programmés. Deux, les urgences. Trois, les soins chroniques avec le grand âge, la perte d'autonomie et le handicap. Quatre, les suites de chirurgie ambulatoire. Cinq, la prévention. Voilà ce que doit être aujourd'hui les enjeux de la médecine générale en France.
Pour revenir à la journée annuelle de l'expérience patient. Quel est le lien entre télémédecine et expérience patient, selon vous ?
Je me plais à le répéter à chaque fois. Il y a une merveilleuse oxymore qui est que la télémédecine, donc la distance, rapproche. Superbe oxymore. Moi, j'ai du mal à en trouver une aussi belle que celle-ci. D'accord ? Cette distance qui rapproche. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un cabinet. Vous avez tout l'attirail pour pouvoir vous occuper du patient. Très bien. Et on me fait ce reproche très souvent en me disant « Tu déshumanises la médecine puisque tu n'as plus le patient en face de toi. Tu ne peux pas l'examiner. » Ah, ça, j'adore. J'adore. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, l'examen du patient nous permet d'éviter de l'écouter. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes en télémédecine, vous allez remplacer cet examen physique par votre écoute et le visuel. En fait, il est sorti d'une étude publiée dans le cadre d'une thèse en 2019 à Grenoble. Ça n'est pas aux États-Unis, ça n'est pas loin. C'est chez nous et c'était il y a 4 ans. Voilà. Qu'aujourd'hui, un diagnostic est proposé dans 70% des cas par l'interrogatoire du patient. Dans 25% des cas, c'est grâce aux examens complémentaires. Et dans 5,7% des cas, c'est parce qu'on a examiné un patient sur la table de soins. Voilà la réalité. Ça met un pavé dans la mare qui éclabousse énormément notre Conseil de l'Ordre et nos syndicats qui ne jugent que ce que l'on a appris sur les bancs de la fac, c'est-à-dire on examine un patient et il n'y a que comme ça qu'on peut faire de la médecine. Eh bien non. Non.
La palpation, par exemple, on peut s'en passer ?
C'est-à-dire ?
Si vous avez besoin de palper une masque, comment vous faites à distance, par exemple ?
On ne pourra pas le faire.
Ouais.
Et là, à ce moment-là, on pourra au moins faire de la télérégulation et pouvoir réorienter de façon ciblée et de façon correcte vers le spécialiste ou vers le médecin généraliste qui, lui, à ce moment-là, pourra réaliser l'examen physique.
Donc là, ça fait partie des cas, des rares cas, on va dire, où
oui. Vous voulez prendre le cas formidable de la télémédecine ?
Ouais.
La santé sexuelle. Je ne savais pas faire de santé sexuelle au bout de 22 ans de carrière. Mmh. D'accord ? Comment je l'ai appris ? Parce qu'en fait, je me suis challengé. Je me suis retrouvé face à des questions que je n'avais jamais eues en cabinet. Pourquoi ? Parce que c'est difficile.
Moins de gêne.
Pour un patient, on est dans l'expérience patient. Imaginez un patient de 19 ans. Je connais les parents. Il arrive et il veut me parler de sa santé sexuelle. Ben, en fait, il ira voir un autre médecin. Il ne viendra pas me voir, moi, en tant que le médecin traitant. D'accord ? Eh bien, là, d'un seul coup, on met de la distance. C'est un médecin que je ne connais pas, etc. Et les gens se livrent. Ils sont chez eux, en plus de ça, dans leur cocon. Ils sont très libres de pouvoir parler. C'est fantastique.
Donc, ça ouvre des portes aussi, en fait.
Ben, bien sûr. Ouais. Imaginez même un couple que je suis et un des deux, bon, je ne vous fais pas un dessin, ça ne passera pas chez le médecin traitant. Ah, parce qu'on a peur, même si on a le secret médical, on aura peur de ce qui se passera derrière. Mmh. Voilà. Donc, il y a des atouts et des forces non connu antérieurement que la télémédecine peut mettre en avant. Aujourd'hui, la télémédecine, la téléconsultation est utilisée dans la majorité des cas en niveau des professionnels de santé par la psychiatrie. Mm-hmm. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, non ? Il faut être à l'écoute du patient. C'est ça, en fait, c'est être empathique. L'écoute et le visuel, c'est être empathique auprès du patient. Mm-hmm. Bien sûr que je ne pourrais pas mettre ma main sur son épaule. Mais je serais très heureux de le faire à partir du moment où je lui aurais demandé de venir dans mon cabinet en télémédecine pour pouvoir lui annoncer des choses beaucoup plus graves.
Donc là, ce que vous nous dites, c'est qu'en gros, la téléconsultation, elle permet finalement de mieux prendre en charge les patients, de leur consacrer plus de temps, plus d'écoute.
C'est le temps. Ce qu'on peut offrir de plus beau à quelqu'un, c'est notre temps.
Ça dure combien de temps d'ailleurs, une téléconsultation ?
Une téléconsultation digne de ce nom doit durer au minimum un quart d'heure.
Et ça peut aller jusqu'à ?
J'en ai eu des trois quarts d'heure. Moi, je ne me limite pas. À partir du moment où il y a un besoin d'échange, de parler, on va peut-être éviter la prescription médicamenteuse juste en échangeant avec son patient. Et ça, ça n'a pas de prix.
Comment les médecins peuvent-ils améliorer encore et encore l'expérience de leurs patients, que ce soit au cabinet ou à distance ?
Par l'acceptation des médecins de se faire évaluer par le patient.
Ah oui, on inverse les rôles alors.
Une idée disruptive.
Oui.
Si vous voulez, j'essaye de mettre en avant depuis pas mal de temps le fait que les médecins ne sont pas obligés d'aller vers la télémédecine et d'aller vers la téléconsultation. Ils font bien ce qu'ils veulent. Ils sont libres de leur pratique et de leur exercice, et tant mieux. Mais force est de constater qu'à un moment donné, avec la nouvelle génération, les patients vont s'écarter eux-mêmes des médecins qui ne seront pas connectés. Donc, les médecins font ce qu'ils veulent, mais à un moment donné, ils seront forcés d'y aller. Donc, plutôt que d'être forcés d'y aller, essayez de maîtriser l'outil, les gars. Parce qu'en fait, la télémédecine n'est pas une révolution et n'est pas une innovation médicale. La télémédecine, ça n'est qu'un outil au service de la médecine. On ne réinvente rien en télémédecine. On se sert, c'est notre stéthoscope du 21e siècle, c'est tout.
Est-ce que ça peut rendre accro, la télémédecine ? Est-ce que vous avez plus envie encore de faire des consultations parce que ça se passe justement sous cette forme-là ?
C'est plaisant.
Est-ce que ça a dynamisé votre exercice, votre activité, la façon dont vous exercez votre métier ?
Oui, au bout de 23 ans, je peux vous dire que ça a été un boost et un booster dans mon activité qui était en déclin. D'énergie.
Oui.
Parce que quand vous avez quelqu'un qui vient chercher un conseil et que vous l'écoutez et que vous lui rendez ce conseil et qu'à la fin il vous dit juste merci, alors on va me dire mais c'est la même chose qu'au cabinet. Non, parce que c'est quelqu'un qu'en plus de ça vous n'allez pas connaître à l'autre bout. Donc vous allez vous intéresser à son histoire. Et c'est cet échange qui est passionnant. L'exercice même, l'essence même de notre exercice, c'est l'empathie. Donc il ne faut pas avoir peur de cet outil d'e-santé ou de télémédecine. Encore une fois, ce n'est qu'un outil au service de l'humain.
Et pour tous les jeunes médecins, par exemple, là, qui nous écoutent, d'un point de vue finance, justement, qu'est-ce qui est le plus intéressant, finalement, de faire essentiellement du cabinet, essentiellement de la télémédecine, un mix des deux, l'équilibre financier pour vous ?
Sachez une chose, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique, qu'il soit libéral ou salarié, n'existe pas, n'existe plus. C'est tout. Donc, on peut parler pendant des heures, le modèle économique s'effondre. J'ai trouvé, et je suis très heureux éventuellement de pouvoir partager à la fin de ce podcast avec vous des adresses mail, etc., si vous voulez. Mais j'ai trouvé plusieurs situations de start-up qui sont prêtes à s'engager dans le salariat de la médecine générale. Je peux vous dire qu'à 35 heures par semaine, avec les avantages que ça comporte à côté, l'association du bien-être professionnel et personnel a rarement été atteint comme ça par du libéral. C'est tout. Je suis encore libéral au moment où on se parle pour 30% de mon activité. J'ai été libéral depuis 23 ans. Je ne suis pas en train de switcher et de faire l'avènement du salariat. C'est juste que dans le modèle économique que nous propose la CNAM aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre moyen que de pouvoir aller flirter avec le salariat. C'est salvateur pour nous à l'heure actuelle. Je peux vous dire sincèrement, c'est salvateur. Et j'ai exposé ce fait à mon conseil départemental de l'ordre. J'ai eu des médecins réfractaires qui m'ont regardé avec un regard noir en me disant « on ne peut pas lutter ». C'est-à-dire « on ne peut pas lutter avec ce que tu nous proposes financièrement en tant que salariat ». Je leur ai dit « pourquoi vous voulez essayer de lutter ? Accompagner ce mouvement ?» Ils sont réfractaires. Ils ne veulent pas bouger dans un archaïsme libéral puisqu'il n'y a que ça qui puisse être utile à leur poche et non pas aux patients. Moi, je peux vous dire une chose aujourd'hui, je suis heureux, fier de pouvoir mettre mon expertise au service des établissements de soins médico-sociaux et au service de mes patients en même temps.
Merci beaucoup, docteur Cédric Villeminot, d'avoir apporté votre enthousiasme et toute votre détermination à ce podcast. Bonne continuation à vous.
Merci vous-même.
À l'occasion de la journée annuelle de l'expérience patient, retrouvez les podcasts de l'IFEP, animés par Jessica Falour.